Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs, merci d'écouter Canal Académie, la radio web qui donne la parole aux académiciens. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Merci d'être venue à notre studio évoquer votre visite à l'exposition universelle de Shanghai et la conférence que vous y aviez tenue sur l'Académie française, qui est votre compagnie, et c'est une compagnie singulière. De nombreuses académies existent, en effet, de par le monde, mais l'Académie française ne ressemble à aucune autre. À Shanghai, l'Institut de France et les cinq académies furent très présents dans le pavillon de France. D'une part, un court-métrage réalisé par l'Institut lui-même, qui présentait le palais de l'Institut et la vie académique, et d'autre part, et nous y venons, des académiciens y ont prononcé différentes concurrences, une pour l'Institut et une pour chacune des académies. Alors madame, tout d'abord, quelles impressions avez-vous retirées de votre visite à cette exposition universelle? Quel accueil y avez-vous reçu? Et puis enfin, quel fut le sujet de votre conférence? Comment l'avez-vous choisi? Pourquoi l'Académie française est-elle si singulière? Et je crois d'ailleurs que vous avez repris ce thème pour la séance publique annuelle le 2 décembre dernier à Paris, au Palais de l'Institut. C'est un thème qui vous est cher.
C'est un thème qui m'est cher, vous avez raison, et c'est un thème qui intéresse. Car je me suis aperçu, à fréquenter toutes les séances de rentrée des académies, que les gens qui étaient invités, ils sont très heureux d'être invités, mais au fond, ils ne savent pas très bien où ils sont invités. Ils savent que c'est sous la coupole, ils savent que... Bon, quand c'est l'Académie française, ils savent à peu près ce qu'est l'Académie française. Quand ce sont les autres, ils savent pas très bien. Et ils ne savent pas très bien ce qu'est une académie. Et pour eux, moi, j'ai été frappée de voir combien des gens qui viennent presque tous les ans étaient émerveillés qu'on leur explique historiquement ce que ça représente, comment ça fonctionne. Enfin, un nombre de choses totalement inconnues pour eux. Alors, commençons par Shanghai. D'abord, je voudrais dire l'admiration que m'a inspirée Shanghai. Je voudrais le dire 5 minutes parce que c'est important.
La ville elle-même, vous voulez dire.
Ce qu'on a fait de Shanghai et l'exposition universelle. Deux choses que je voulais souligner. D'abord, autant je connais bien Pékin, autant Pékin tout de même n'est plus Pékin. Enfin, c'est une ville qui ressemble à des tas de mégapoles. Autant Shanghai, c'est resté Shanghai. Alors qu'on a construit des choses extraordinaires.
Il y a encore des concessions. Et la concession française.
Ah, il y a la concession française qui est merveilleuse où je me suis promenée. Le Bund qui ressemble à ce qu'il était. Enfin, mais pas seulement ça. Il y a un esprit de Shanghai. Et je suis allée voir ce qui s'appelle le musée d'urbanisme de Shanghai où il y a un plan de Shanghai tel qu'il est aujourd'hui. Et on voit très bien, quand on voit ce plan, il y a des maquettes en gros de 50 cm de hauteur, on comprend très bien à quel point le nouveau Shanghai s'est inséré dans le Shanghai traditionnel, ce qui est un vrai miracle. Et ça me permet de venir à l'exposition et au pavillon français.
Qu'en pensiez-vous du pavillon, de l'architecture du pavillon lui-même?
Écoutez, moi j'ai trouvé ça assez bien. J'ai trouvé que le pavillon français était bien conçu. J'ai entendu dire des tas de choses contradictoires sur ce pavillon. Il m'a semblé... D'abord, il a reçu un accueil formidable. Il correspondait donc bien à quelque chose, puisque c'était le second en fréquentation. Et j'ai vraiment vu comment les gens s'y précipitaient. Et avec quelle curiosité ils regardaient. Alors, bon, on a dit, ça n'est pas assez moderne, ça n'est pas assez si. C'est très difficile. On était en Chine, à Shanghai, et le gros de la fréquentation, c'était des Chinois. Et
oui.
Personne n'y a réfléchi suffisamment dans les critiques. Parce qu'on aurait fait le pavillon à Genève. Bon, les gens seraient venus de toute l'Europe. Mais à Shanghai, la fréquentation est non seulement majoritairement, mais de façon écrasante chinoise. Et on a bien trouvé les thèmes qui pouvaient les intéresser. C'est-à-dire quelque chose, en effet, d'un peu traditionnel, une image de la France sur la longue durée. Et c'est pour ça que je défends ce pavillon, parce que je crois que ce que ces concepteurs avaient compris, c'est qu'il fallait donner, non pas une image moderne, un peu clinquante, non, mais une image qui aille pour les foules chinoises, qui ont une certaine idée de la France et qui ont trouvé cette idée de la
France.
Qui
évoque le patrimoine culturel d'une certaine manière.
Oui, absolument. On a pris des tableaux au musée d'Orsay, tout cela. Si on leur avait mis des sculptures ultramodernes ou des... Pour les Chinois, c'est pas ça. C'est la France qu'ils veulent découvrir. Et pas la France d'un instant, pas la France d'une mode. Et c'est pour ça que je défends ce pavillon et je vous remercie de me l'avoir laissé dire. Alors, pour la même raison, j'ai été enchantée quand on m'a demandé d'y faire une conférence, de moi, ma propre idée, pardonnez-moi de me faire des compliments, mais je me suis dit, je vais leur parler de l'Académie française, parce que je sais que les Chinois savent ce qu'est l'Académie française. Je suis très frappée. Le dimanche matin, je circule beaucoup dans le quartier, ici, autour du palais de l'Institut, mais il y a des tonnes de touristes, beaucoup de Chinois et de Japonais, et je dois dire qu'ils s'arrêtent devant le palais, ils regardent, palais de l'Institut.
Ça ne dit rien, c'est l'Académie française.
Absolument. Et ils me disent, souvent ils m'attrapent, ils me disent « Vous dites quelques mots d'anglais ?» Je dis « Oui, comment donc ?» Et là, ils ne le demandent pas en français. Et ils me disent « Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « C'est l'Académie française. » Et immédiatement, ça fait un écho.
Oui, leur visage s'illumine parce qu'ils ont compris.
Ils ont compris. C'est pour ça que j'ai pensé que leur parler de l'Académie française, c'était nécessaire, d'autant qu'ils ont des académies, leur conception académique n'est pas exactement la même que nous. Elle est plutôt calquée sur le modèle russe et soviétique, etc. C'est un modèle qui, la Russie avait, croit-on, la Russie impériale empruntait le modèle de l'Académie française. C'est pas tout à fait exact. Pierre le Grand l'a beaucoup transformé. Et dans tous les pays qui ont été en rapport avec la Russie, ce modèle a été largement copié. Il n'y a que deux pays. Vous avez dit en commençant que l'Académie, rappelez que l'Académie française est singulière. À la vérité, elle a deux imitatrices absolues. L'Académie du Brésil, qui a exactement le même nombre de membres, dont les costumes sont, cherchent à être voisins des nôtres, les traditions, et l'Académie suédoise. Les deux ont 200, un siècle et demi de moins que nous. Mais l'Académie suédoise, compte tenu de la taille du pays, est plus restreinte en nombre, mais elle a exactement les mêmes principes, le mode, même mode de fonctionnement. Donc on a affaire là à des académies qui sont des enfants, si j'ose dire, ou des petits-enfants de l'Académie française, et nos confrères le disent très volontiers quand on les reçoit ici. Les autres académies sont très différentes et il y a des pays où le modèle académique soit un modèle qui soit un mélange, je dirais, d'académie et de quelque chose comme le CNRS. C'est-à-dire un mélange de laboratoires, de recherche, d'instituts, d'universités et un modèle d'académie, c'est-à-dire de réunion périodique de savants. La Chine, c'est ce modèle-là, car c'est le modèle russe ou le modèle soviétique. Donc, si vous voulez, j'ai compris qu'il fallait leur expliquer ce qu'était une académie parce que les académies ont commencé dès le 15e siècle. En Italie, mais alors ça, plus personne ne s'en souvient. Les Italiens font peut-être des conférences là-dessus. Moi, je l'ai rappelé d'ailleurs qu'on s'est inspiré du modèle italien, que c'est là que toute l'affaire académique a commencé. Mais ces académies disparues depuis le XVIe siècle, personne...
Se sont un peu évanouies dans les souvenirs.
Complètement. Il n'y a que les lettrés italiens qui le savent, ce qui ne fait pas un modèle qu'on peut diffuser aisément. Mais ça a été un petit peu à l'origine de notre propre modèle, qui a eu des petites académies qui ont précédé l'Académie française.
Alors, elle est née quand ? Cette Académie française.
Elle
est née. Pourquoi et par qui?
Voilà. Alors, elle est née. Maintenant, c'est long, hein. En 1635.
Oui, c'est sa gloire.
Ça fait.
Que ça fait si longtemps.
Maintenant, presque quatre siècles.
Avec toutes les péripéties de la vie politique.
C'est-à-dire qu'elle a tout de même. Elle est morte complètement une fois, avec la Révolution française, et elle aurait pu mourir d'autres fois. C'est une chose qu'il faut savoir. Le miracle, c'est que une Académie, je dirais, qui dure presque quatre siècles, qui a ressurgi après avoir été tuée, et qui a retrouvé très tardivement la totalité de sa personnalité, et qui est toujours vivante, et qui, au contraire, retrouve une nouvelle jeunesse, c'est un phénomène rarissime.
Alors, cette singularité, c'est son âge, mais c'est aussi son fonctionnement, sa formation.
Sa singularité, ce sont beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est, je dirais, l'indépendance dans laquelle elle a été créée, car c'est une affaire très contradictoire. En 1635, le cardinal de Richelieu l'a créé tout simplement parce qu'il a entendu. Il était le grand ministre de Louis XIII, c'était un homme de pouvoir, un intellectuel, et il savait que le pouvoir intellectuel était très important, d'autant que la France était tout de même un pays qui était très divisé, dont l'unité n'était pas faite, qui était à la fois où la noblesse avait son propre esprit d'indépendance, je vais y revenir tout de suite, les régions avaient une indépendance. Bon, il a découvert qu'il y avait une compagnie de lettrés, une petite compagnie, il devait être une douzaine ou une quinzaine, qui se réunissait chez un secrétaire du roi. Et il a tout de suite saisi, car c'était un vrai politique, il a tout de suite saisi qu'il pourrait en faire une compagnie intellectuelle à sa dévotion. Pas à sa dévotion, mais qui le servirait. Et ça, ça a été son coup de génie. Il leur a proposé, il leur a fait proposer de les prendre sous sa protection. Et il a dit, on fait de vous une véritable compagnie, placé sous la protection d'une autorité publique.
Seulement, il fallait que ce pouvoir intellectuel ne soit pas trop inféodé au pouvoir politique.
Absolument. Et alors, ce qui est certain, qui est très intéressant, parce que ces gens ne se sont pas précipités dans ses bras, du tout. Ils ont été assez hésitants, et c'est au fond sur la base du respect de leur indépendance que l'accord s'est fait. Il leur a dit, vous êtes libres de vous concilier. Il a suggéré le chiffre de 40. Il a dit, vous seriez bien à 40. C'est-à-dire qu'il fallait s'étendre. 40, pour ce temps-là, c'était déjà une jolie compagnie. Mais il leur a dit, vous choisissez vos membres, complètement. Et il n'est pas intervenu du tout. Et vous les choisirez éternellement comme vous le souhaitez. Vous ferez vos statuts. Il n'est pas intervenu dans la confection des statuts. Simplement, vous aurez des lettres patentes du roi dont l'enregistrement se fera avec les statuts. Et il a ajouté quelque chose qui peut paraître tout à fait étrange. Il a dit, je ne vous donnerai pas d'argent. Parce qu'il faut que vous soyez indépendant complètement du pouvoir.
Oui, c'était un homme qui voyait très loin.
Il voyait très loin. Bon, c'était pénible parce que ces gens se réunissaient dans un salon. Ils n'avaient pas de domicile, ils n'avaient pas de moyens. Peu importe, ils ont accepté, ils ont fait cet accord. Ils se sont constitués à 40. Et là-dessus, Richelieu a eu une petite tentation de les utiliser. Et c'était une tentation politique, en fait, parce que c'est le moment où Corneille fait jouer le Cid. C'est un triomphe, absolument. Un triomphe public extraordinaire. Et Richelieu en a conçu un très vif mécontentement, parce que le Cid... D'abord, Richelieu était un auteur. Et ça lui plaisait pas. Il n'avait pas de succès. Incontestablement, il y avait une petite jalousie d'auteur. Mais je crois que beaucoup plus profondément que ça, il a vu à quel point c'était la condamnation de sa politique.
Du duel ?
Le duel. Et puis les Espagnols.
L'Espagne.
C'était la gloire des Espagnols, alors que les Espagnols étaient en train de marcher sur Paris. Et c'était vraiment les ennemis de Richelieu. Alors, il a demandé à l'Académie, il a fait demander qu'on porte un jugement sur le Cid. Ça a été un drôle de problème, parce que porter un jugement, ça voulait dire l'attaquer. Bon, ces gens s'en sont assez bien tirés, en fait. Ils ont été très embêtés, parce que ils ont bien compris qu'ils étaient devant un piège politique et que c'était le début d'un engrenage. Alors, ils ont porté un petit jugement littéraire sans aucune espèce d'importance. Et Richelieu, qui était très fin, s'en est contenté. C'est comme ça que l'affaire s'est arrêtée. Et on peut dire que, si vous voulez, c'est dès ce moment-là, l'Académie, c'est je crois le point le plus important, a été hantée par la nécessité de s'affirmer en face du pouvoir politique. Alors, ça n'a pas toujours été facile, parce que, bon, Richelieu a été son premier protecteur. Il n'était pas le roi. Quand il est mort, le chancelier Séguier s'est substitué à lui. Il n'était pas le roi non plus. Donc, si vous voulez, le rapport entre ces gentilshommes, c'était souvent des gentilshommes, et le protecteur était un rapport relativement aisé encore. Et d'ailleurs, en plus, ils étaient toujours indépendants dans leur... c'est une certaine clochardisation, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient un petit bien, mais pas obligatoirement. Ils n'avaient toujours pas de domicile.
Ils étaient où siéger ?
Ah ben, ils siégeaient. Là, c'est le chancelier Séguier qui les a hébergés dans son hôtel. Enfin, je veux dire que cette académie n'avait pas d'assises. Et donc, on ne savait pas du tout si elle pourrait durer. Et c'est à la mort du chancelier Séguier... Alors, ils ont été très intelligents. Ces académiciens ont commencé à s'affirmer parce que ils ont senti que l'Académie française pouvait perdre sa place comme ça de première académie dans la mesure où Colbert crée, où des académies se sont multipliées. Où Colbert a d'ailleurs créé ce qui s'appelait la petite académie, c'est-à-dire ce qui sera l'Académie des inscriptions et belles lettres. L'Académie, on frappe les médailles, enfin, on commentait les médailles, préparait les médailles. C'était bien ça, on déchiffrait les inscriptions. Il a créé l'Académie des sciences. Apparaît l'Académie royale de peinture. Il y avait beaucoup d'académies. Et l'Académie française, au fond, là-dedans, elle était un peu marginale, presque.
Alors, elle a invité Colbert.
Alors, elle a élu Colbert. Ça a été sa réponse. Elle avait déjà élu, après la mort de Richelieu, Corneille. Elle avait élu Bossuet. Elle élit Colbert. Ça, c'est un triomphe. Et Colbert, évidemment, très flatté, du coup, lui a donné la prééminence. Il l'a logé au Louvre. Et surtout, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que, pour la placer au premier rang, il fallait la placer sous la protection du roi. Et il lui a accordé, il a demandé au roi, qui a été très flatté. C'est la seule académie qui ait été sous la protection des rois. C'est une académie qui reste, à cet égard, j'y reviendrai tout à l'heure, tout à fait particulière. C'est-à-dire que le mot protection, même si aujourd'hui, toutes les académies sont théoriquement sous la protection du chef de l'État, ça n'a pas le même sens. Il n'y a que l'Académie française qui a gardé la notion de protection, c'est-à-dire que, telle qu'elle est, c'est le roi qui confirme la présence de ceux qu'elle élit.
Et pour un président de la République, c'est la même chose.
C'est la même chose, mais ça n'est pas pareil que pour l'Académie. C'est un privilège, mais on pourra y revenir parce que c'est très important, ça relie, je dirais, le président de la République, je saute un peu par-dessus le temps, le président de la République n'a plus que deux privilèges régaliens issus de la monarchie. Le droit de grâce et le droit de confirmer un académicien. Mais un académicien français.
Effectivement. Donc
pour
les autres
académies, quand on élit un académicien, il y a un décret signé par le ministre qui dit qu'ils sont élus. Le protecteur s'en mêle pas, ça le regarde pas. Tandis que ce qui est dans les statuts de l'Académie française, c'est-à-dire que tout élu doit convenir au protecteur, c'est resté vrai jusqu'à... C'est encore vrai, et c'est très important. Si vous voulez, ça donne un contenu à la fonction présidentielle extraordinaire, parce que ça remonte à la protection royale qu'a commencé à exercer Louis XIV.
Oui, et c'est une gageure pour votre compagnie, parce qu'il y a toujours cette ombre positive ou négative choisir un peu.
Eh bien voilà, la question pour l'Académie a toujours été... de savoir comment ne pas transformer cette protection en protectorat. Ça n'a pas toujours été simple. C'est-à-dire que, bon, Louis XIV, les choses ont été simples. Il aimait les arts, il aimait les lettres. C'était tout de même le souverain éclairé de la France. Et c'est la raison pour laquelle il a compris que la protection, c'était simplement d'une part d'accepter de nouveaux académiciens et deuxièmement de donner ce qui est très important pour l'Académie française, ce qu'elle a eu sous la monarchie, le droit de harangue. C'est-à-dire qu'elle avait le droit, elle était considérée comme une cour supérieure, elle avait le droit de haranguer le roi dans les grands événements avec les cours supérieures. Bon, ça c'était un statut parfait. Une fois, tout de même, il y a toujours des exceptions. Louis XIV a eu un petit mouvement d'humeur quand l'Académie a élu La Fontaine.
Il faut dire que La Fontaine, c'était l'ami de Fouquet.
C'était l'ami de Fouquet. Et puis en plus, il avait écrit des contes qui étaient un peu libertins. Alors tout ça, le roi l'a ressenti un petit peu. Mais c'est surtout l'affaire Fouquet qui probablement a dû le chatouiller. Et bon, il a commencé par dire que... Alors il se trouve qu'en plus, voyant qu'il y avait un fauteuil vacant, il avait poussé Boileau. Et l'Académie a élu, pour bien marquer les choses, elle a élu La Fontaine et pas Boileau. Et ça a été, c'est amusant parce que ça a été une comédie, presque une comédie de Molière. C'est-à-dire que le roi a dit non pour La Fontaine. Alors les académiciens se sont obstinés et ils voulaient pas élire Boileau. Et puis là-dessus, il y a eu un autre fauteuil vacant et le roi a laissé entendre qu'il fallait vite élire Boileau et que tout le monde passait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'au fond, ça a été, personne n'y perdait du prestige. Mais c'est la seule fois. Le roi, après, s'est comporté avec un respect infini à l'égard de l'Académie. Alors, la fin de son règne n'a pas été bonne pour l'Académie. Parce que la fin du règne de Louis XIV, c'était la fin de règne de
très
piété.
Pieux, oui.
Oui, c'était l'influence de Madame de Maintenon, il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'Académie, qui se sentait bien avec ce roi, d'une certaine façon, elle est allée dans la direction qu'il lui indiquait. Mais sans aucune pression, il faut le savoir. Mais elle voulait être en accord avec cet immense roi qu'elle respectait. Le résultat, c'est qu'elle a élu des ecclésiastiques à foison.
Une académie de prélats.
Oui, absolument. À la fin du règne de Louis XIV, il y a 24 prélats sur 40 membres de l'Académie. Alors, c'est vrai que beaucoup de prélats étaient des gens qui avaient un grand savoir.
C'était des lettrés.
Absolument. Mais en fait, tout de même, ça n'était pas très sérieux. Beaucoup de ces prélats, on s'interroge pour savoir qui ils étaient maintenant. Alors, et puis beaucoup de grands seigneurs étaient prélats aussi, parce que c'était les cadets de famille à qui on donnait des abbayes. Enfin, c'était tout de même l'Académie des prélats. Puis est arrivé... Alors, il y a eu le temps de la régence, ça a été un temps rapide. C'était très intéressant parce que le petit roi a été conduit à l'Académie très jeune. On lui a expliqué qu'il était le protecteur. Mais il y a eu, au fond, le régent, l'Académie ne savait pas à qui s'adresser. Et il se trouve qu'elle a eu un problème en ce temps-là, qui était le problème de l'abbé de Saint-Pierre. Et ça montre très bien comment, je dirais, l'esprit d'indépendance peut être entravé par une certaine admiration pour le roi défunt. Car l'abbé de Saint-Pierre, qui était un personnage très intéressant, avait publié en 1719 un livre qui s'appelait « La policy de Die », qui était une réflexion sur un gouvernement des conseils. Et quand les académiciens ont lu ça, ils y ont trouvé une critique, même un procès en règle
contre
du règne de Louis
XIV.
Louis XIV était mort, mais ça avait été leur grand roi. Ils ont été tellement contrariés, ils ont eu tellement le sentiment d'un crime de lèse-majesté, qu'ils ont décidé de chasser de leur rang l'abbé de Saint-Pierre. Et l'Académie est ainsi faite, ça fait partie des choses intéressantes dans cette Académie, c'est-à-dire que...
Quand peut-on chasser un compagnon?
La seule chose qui soit écrite dans les statuts... Alors, je y insiste, tout de même, on vit sur les statuts de 1635. Alors, dans ces statuts de 1635, il est écrit que comment se passe l'élection, et on met qu'on ne peut destituer que, pour un acte de malhonnêteté, quelque chose qui fait d'un individu un individu indigne. Alors, tout à fait au début de l'Académie, il y a eu un académicien qui semble-t-il a détourné la fortune d'un couvent de bonnes sœurs. Alors, il a été chassé. L'Académie n'a conservé aucune mémoire de lui. Il n'y a que moi, à peu près, qui sache qu'il y avait un monsieur Garnier de Beauléon qui a été chassé en 1636. Mais la situation est tout à fait différente au moment de la Régence, car, au fond, c'était politique. Ça n'était pas un acte, c'était pas une malversation, ce qu'avait fait l'abbé de Saint-Pierre. En plus, si vous voulez, la lecture inspirait l'idée qu'il critiquait un roi qui avait disparu. Personne ne leur a demandé de le chasser. Ils l'ont chassé tout seul. Et comme ils ont bien senti que c'était étrange, ils sont allés voir le régent en lui demandant son accord. Et le régent, qui était un personnage assez libre, a été tout à fait désemparé par ça. Il a tenté de les convaincre qu'il ne fallait pas chasser le pauvre abbé de Saint-Pierre. Et il leur a finalement, non pas imposé, mais proposé la solution de ne pas élire de successeur aussi longtemps qu'il serait vivant. Ce qui est très intéressant parce que ça montre d'abord qu'il sentait que ce n'était pas lui l'autorité, mais que de surcroît, cette allégeance au mythe de Louis XIV ne lui convenait pas. Bon, puis est arrivé Louis XV. Alors, c'est la période où l'Académie a été le plus en difficulté avec le pouvoir, parce que Louis XV, d'une certaine façon, était autoritaire. L'esprit de l'Académie ne lui convenait pas, car le règne de Louis XV correspond au développement des Lumières, à l'arrivée des philosophes à l'Académie. C'est-à-dire, on n'est plus dans la critique du roi défunt, par l'abbé de Saint-Pierre.
On est dans une subversion.
Absolument. On est dans quelque chose qui est la mise en cause du royaume de France tel qu'il est, du pouvoir tel qu'il est. Et ça commence très tôt, puisque Montesquieu a été élu en 1727, c'est très tôt, et Voltaire se présente dès le début des années 30. À Voltaire, c'était déjà une menace terrible pour la, je dirais, pour le système politique. Il a fini par être élu, pas du premier coup, mais il a fini par être élu, et entre derrière lui les philosophes, les uns après les autres. Alors là, ça a été extrêmement inquiétant. Ça a été parce que c'était des idées subversives, c'était un esprit de subversion, et Louis XV ne savait pas très bien comment s'y prendre. Et alors, le sommet, je dirais, de son inquiétude a été atteinte. Bon, D'Alembert avait été élu quand on a voulu porter D'Alembert au secrétariat perpétuel, c'est-à-dire qu'il s'est dit que celui qui allait tenir l'Académie, on voyait déjà, parce que la particularité de cette Académie, contrairement aux autres académies qu'il y a en France, l'Académie française est une académie qui a un secrétaire perpétuel. C'est la seule qui n'est pas d'autorité à côté du secrétaire perpétuel. Dans les autres académies, dès le début, il y a eu un président, un vice-président, enfin, c'est-à-dire des pouvoirs d'équilibre. Alors, à l'Académie française, il y a un directeur et un chancelier qui devaient être renouvelés tous les 2 mois, que pour plus de commodité, on renouvelle tous les 3 mois, mais un bureau qui passe de 3 mois en 3 mois n'a aucune autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et là-dessus, l'Académie a été, elle est passée de 2 mois à 3 mois parce que c'était plus commode, mais jamais elle n'a altéré ce système. C'est ce qui explique d'ailleurs, si vous voulez, l'importance du combat autour du secrétaire perpétuel qu'on ne voit pas dans d'autres académies. Alors, quand D'Alembert, la candidature de D'Alembert s'est présentée, là le roi était très furieux et il a fait appel à un de ses proches qui était à l'Académie, le duc de Nivernais, à qui il a suggéré vraiment de torpiller l'élection. Et puis alors, il y avait une personnalité extrêmement détestable dans l'Académie qui était le maréchal de Richelieu, qui avait été élu très jeune.
C'est le petit-neveu.
Voilà. Et bon, il avait été élu sur son nom pratiquement parce qu'il n'était pas spécialement lettré, il n'avait aucun titre à ça, mais il a joué un rôle épouvantable. Il a passé 68 ans à l'Académie, et pendant 68 ans, il a été un fabricant de querelles. Toujours, je dirais, du côté du pouvoir, véritablement une sorte d'agent. Il a essayé d'être l'agent d'influence du pouvoir, et auprès de Louis XV, ça marchait. Donc, il a...
Oui, il a été un agent du pouvoir.
Il a été un agent du pouvoir, et dans l'affaire D'Alembert, ça a été terrible, car il a pratiquement menacé l'Académie des pires choses, si elle persistait à porter D'Alembert au secrétariat perpétuel. Bon, l'Académie l'a fait. Mais on peut dire que ses rapports avec Louis XV ont été des rapports compliqués parce que l'Académie faisait un pas en avant et le roi lui faisait payer tout de suite. Et l'élection de D'Alembert, il l'a fait payer en refusant, justement, c'est l'histoire de l'agrément qu'il donne à l'élection des académiciens, en refusant son agrément à 2 élections, Suard et Delisle, qui étaient des hommes dans la lignée des philosophes. Il a refusé son agrément, il a fini par accepter. Mais il a du coup produit des textes qui ont été inscrits dans les registres de l'Académie, qui ne s'ajoutent pas aux... Les statuts, on n'y touche pas. Ça ne s'ajoute pas aux statuts, mais il est écrit que le roi n'acceptera que des gens, que des élus qui ne mettent pas en cause ni le gouvernement, ni les idées religieuses. Or, précisément, avec les philosophes, tout l'esprit religieux était battu en brèche. Donc, si vous voulez, ce qui avait été les fondements de l'Académie de Louis XIV, de l'accord entre la monarchie et l'Académie, avec l'arrivée des philosophes, ça se dissolvait. Ça a été encore pire d'une certaine façon quand Louis XVI est arrivé, car Louis XVI était un roi très bon, mais lui, contrairement à Louis XIV, les lettres, ça n'était, il n'éprouvait aucun intérêt pour elles. C'était pas son domaine, c'était un esprit scientifique.
Un géographe,
il aimait l'histoire, mais l'Académie, c'était pas du tout son domaine. Il était très pieux, et ce ramassis de philosophes et de, je dirais, de critiques de la religion, le choquait profondément, donc il se méfiait de l'Académie. Comme il était bon, il n'a jamais, je dirais, il ne s'est pas heurté à l'Académie, mais il s'est créé autour, il a laissé ses ministres menacer l'Académie. Et c'est allé extrêmement loin, parce que certains ministres, dans des élections qui leur paraissaient contestables, ou devant des discours qui les choquaient, proclamaient que l'Académie serait sanctionnée, qu'on pourrait en bastiller les gêneurs et éventuellement supprimer l'Académie. Et alors, ce qui est très amusant, le frère du roi, le comte de Provence, celui qui deviendra Louis XVIII, car là, on va arriver sur des choses très drôles. Le futur Louis XVIII, lui, criait partout que si un jour il était le maître, eh bien, l'Académie serait supprimée. Parce qu'il trouvait, ou à la rigueur, eh ben, il n'y a qu'à l'incorporer dans l'Académie des inscriptions qui allait tellement docile. C'était ça qui était intéressant. Donc, on peut dire, à partir du règne de Louis XV, et avec Louis XVI, une méfiance, alors, à l'égard de l'Académie. Et l'Académie a été obligée de jouer un jeu subtil, essayer de ne pas aller jusqu'à la confrontation totale, et en même temps défendant ses idées.
Et alors à la Révolution ?
Et alors la Révolution, ça aurait dû très bien se passer, parce que cette académie peuplée de philosophes, marquée par l'esprit de lumière qui avait été en querelle permanente avec le pouvoir depuis Louis XV, elle aurait dû plaire aux révolutionnaires, pas du tout. Et elle a même été à leurs yeux la plus mauvaise, la plus détestable, parce qu'ils considéraient qu'elle était aristocratique, que c'était la plus...
Elle était entachée.
Elle était entachée d'esprit aristocratique, et entachée aussi de l'idée que c'était elle qui était au sommet du panthéon académique. Que par conséquent, si on voulait tuer les académies, là, il fallait taper...
Il fallait en passer par l'Académie
absolument.
Française.
Donc, et malgré, car à partir de 1790, le secrétaire perpétuel était Marmontel, le secrétaire perpétuel s'était prudemment mis au repos à la campagne pour ne pas affronter les événements qui se passaient à Paris. Et l'Académie était tenue par quelqu'un à qui je crois l'Académie doit une reconnaissance infinie, qui était l'abbé Morlaix, qui était un ami des Lumières aussi. C'était un ami de Voltaire, de Rousseau, tout le monde. Un homme très très remarquable. L'Académie siégeait au Louvre. Et il y avait sur les murs de sa salle de séance un nombre considérable de portraits d'académiciens. L'abbé Morlaix était directeur au moment où les choses se gâchent. Et à partir de 1791, il fait fonction de secrétaire perpétuel parce que Marmontel était effrayé. Et il a eu le courage. D'abord, il a compris qu'il fallait faire quelque chose. Évidemment, c'était un esprit avancé. Et il a proposé une réforme de l'Académie pour essayer de la sauver. Il a proposé que l'Académie se détache complètement, n'ait plus de protection royale du tout, qu'elle n'élise plus aucun grand et qu'elle n'ait plus aucune espèce de considération pour toutes les limitations, je dirais, au sujet qui avait été tenu jusqu'alors. Bon, donc, si vous voulez, c'était une vraie révolution, une modernisation qu'il a proposée. C'était trop tard, la tourmente révolutionnaire était engagée, quelques académiciens avaient été arrêtés, et en 1792, on est à la fin de 1792, on arrive à la suppression des académies qui avait été proposée par l'abbé Grégoire. Et surtout, alors si vous voulez, il y avait un membre de l'académie, Chamfort, qui était
une forte tête.
Un affreux, une forte tête, mais un affreux. Car au fond, c'était un traître. Il a plaidé contre son académie, il a véritablement, à la tribune, dit c'est la pire de ces académies. Alors vous savez la phrase célèbre de l'abbé Grégoire, le génie est sans culotte, on a tout supprimé. Et l'Académie française s'est trouvée supprimée. Mais ce Morlaix, qui est un homme extraordinaire, a réussi. Alors ça, il faut réfléchir à ce qu'était l'atmosphère dans cette... C'est la terreur déjà. Dans ce Paris terrifiant, il a d'abord caché les tableaux sous des tribunes du Louvre, parce qu'on venait chez...
On les a récupérés.
Et on les a récupérés. Et pas seulement ça, il a pris. Alors, il a transporté lui-même. Il a dû louer une charrette à bras. Il n'y avait pas de camion de déménagement. Hein. Il a transporté toutes les archives de l'Académie chez lui. Et il les a cachées. C'est une affaire tout à fait étonnante. Et grâce à quoi l'Académie a ses archives depuis les lettres patentes, tout est là. Bon, c'est un... L'abbé Morlaix, il faut retenir son nom.
Ah,
je
oui.
trouve qu'on devrait l'apprendre dans les écoles, parce que c'est un exemple de courage. Et je dirais de sauvegarde de la continuité historique. Et alors, en même temps, ça, tout le monde... L'abbé Grégoire, le même qui avait dit qu'il fallait supprimer l'Académie, a été celui qui a proposé, il a dit tout de même, il faut quelque chose, un parlement des savants. C'est de là qu'est né l'Institut de France. Alors, au fond, il y a eu deux instituts. Le premier et le second qui a été, je dirais, revu et corrigé par Bonaparte.
Napoléon, oui.
Voilà. Pas encore par Bonaparte.
Effectivement.
Mais le premier Institut de France, alors c'était celui où l'Académie était quasiment bannie, car c'est très amusant, c'était un institut de trois classes. Les scientifiques avaient leur place, parce que c'était toutes les idées des révolutionnaires. Il y avait une classe des lettres et des beaux-arts, et il n'y avait pas, je dirais, rien qui corresponde aux tâches de l'Académie. Et il n'y avait pas d'académicien dans cette classe. Et l'Académie a été en dehors de ce premier institut, complètement. Et puis, Bonaparte, qui était si fier d'être membre de l'Institut, a modernisé l'Institut, et c'est devenu un institut de quatre classes, avec un classement qui n'était... La première classe, c'était les sciences. La seconde, c'était même la classe de littérature. Et là, alors c'est amusant parce qu'on comprend le Bonaparte. Il saisissait ce qu'était l'Académie française. En même temps, il appartenait à l'Académie des sciences. Donc, il l'a placée après l'Académie des sciences. Mais il l'a pratiquement reconstituée. Elle n'avait pas son nom, c'est la seule chose. Mais elle avait ses statuts. Elle avait ses 40 membres. Elle avait un secrétaire perpétuel. Et son dictionnaire. Donc, si vous voulez... Au fond, elle était là.
Elle avait les bases.
Elle avait les bases. Alors, ce cas, cela dit, l'abbé Morlaix, ça ne lui suffisait pas. Il voulait la reconstituer. Et il a fait un complot avec le frère du roi qui était mis... Le frère
Lucien.
De Lucien. le frère de Bonaparte, oui, le frère de celui qui allait devenir l'empereur, Lucien. Lucien avait des ambitions intellectuelles. Avec lui, avec Talleyrand, enfin avec tous ceux qui avaient des ambitions intellectuelles, avec le consul Lebrun, et au fond, ils ont préparé la résurrection de l'Académie, véritablement. C'est la seule qu'ils ont voulu reconstituer. Et tout était prêt. Et quand Bonaparte est rentré d'Italie, on lui a dit, voilà l'Académie, et on vous élit membre de l'Académie. Puis évidemment, avec Lucien, Talleyrand, etc. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que Bonaparte, il a eu peur. Ça, c'est très clair, si vous voulez. Tout de même, c'était un enfant de la révolution. Il était arrivé au pouvoir dans les pas de la révolution.
C'était l'héritier de la révolution,
oui,
mais
il n'était pas possible.
Il n'avait pas encore passé le cap.
Oui, au fond, on voyait bien, et toute la reconstitution, l'Institut le montre, il reconstituait le passé sans oser redonner les noms. Alors, c'est là que dans cette reconstitution, il a donné cette place formidable à l'Académie, mais sans oser appeler ça Académie, précisément pour ne pas avoir l'air de marcher dans les traces du passé. Bon, alors, on peut dire que l'abbé Morlaix, pendant tout ce temps-là, s'est employé à ce que cette classe de l'Institut ressemble à l'Académie française, tant et si bien que, pour ceux qui, les 40 membres, pour eux, c'était l'Académie. Quand ils parlaient de ça, ils parlaient de l'Académie, ils connaissaient pas l'Institut, c'était leur affaire. Et puis est arrivé Louis XVIII, l'ancien comte de Provence.
Oui, alors, celui qui avait dit qu'il l'abolirait, mais il l'a restauré.
Alors,
comme le reste, oui, la restauration, c'était ça aussi.
Oui, mais c'est une restauration ambiguë. Justement, dans la légende, les gens qui ne savent pas croient, et c'est ce qu'on dit toujours, on dit, c'est Louis XVIII qui a restauré l'Académie française. Quand on étudie l'histoire, et Jacques Bainville l'avait qui était un grand historien, l'avait parfaitement compris, on s'aperçoit que justement, Louis XVIII, que Bonaparte a fait beaucoup plus pour l'Académie que Louis XVIII. Louis XVIII, il a trouvé déjà cette Académie, il lui a rendu son nom. Mais
il l'a vidé un peu de sa...
Il a chassé les académiciens qui ne lui plaisaient pas, et il en a nommé d'autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté le privilège fondamental de l'Académie, qui était de choisir librement les siens. Ça, c'est, comme dit Bainville, c'est une violence que plus personne n'a jamais osé répéter. Et la seconde, je dirais, violence de Louis XVIII, c'est qu'il a gardé l'Institut. Et qu'il y a ce millefeuille, car au fond, c'est très français, cette histoire. En France, on sait qu'on fait une loi, puis on en fait une autre, on ne supprime pas la première. C'est souvent pareil pour les institutions. L'Institut avait été créé par Bonaparte, précisément parce qu'il n'osait pas reconstituer les académies, mais les académies sont reconstituées en 1816 et on ne supprime pas l'Institut. C'est-à-dire
que... Ça fait des ambiguïtés à tous les niveaux.
Absolument. On ne savait pas qui était qui et à quoi ça correspondait. Et je dirais que là, au fond, est-ce qu'il y avait une hiérarchie? Quel était le rapport entre les académies? Parce que dès lors qu'elles étaient dans l'Institut, est-ce qu'elles étaient des espèces de classes, bien qu'elles aient le nom d'académie?
Entre elles et par rapport
Absolument.
À l'Institut?
Absolument.
Point d'interrogation.
Et je dirais que la démarche de Louis XVIII posait aussi le problème de l'indépendance. L'Académie n'avait pas été indépendante de choisir ses membres. Donc ça a été un problème très très compliqué. Alors, je saute sur le temps pour dire que c'est un problème qui n'a été résolu
qu'en 2006. C'est ce
qui est tout de même extraordinaire.
À votre 1816,
2006, presque deux siècles.
Alors, comment ça se passe maintenant?
Alors, ça s'est passé en 2006. Les académiciens français sentaient très bien que ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est d'eux qu'est venu le mouvement. On peut dire que toutes les académies, il y a un vrai mouvement. Il y avait une réflexion là-dessus. Et c'est Pierre Messmer qui a été, dans l'histoire de l'Académie, il me semble qu'il y a l'abbé Morlaix et Pierre Messmer qui, dans la sauvegarde et dans la reconstitution de l'Académie, ont joué un rôle absolument capital. Alors Pierre Messmer, il a senti que cette ambiguïté n'était pas possible. C'était un homme d'État. Pour lui, ces organisations dont on ne savait pas où se situait le pouvoir, lui paraissait relativement... Il était chancelier de l'Institut.
Il était chancelier
de
l'Institut et homme de deux académies. Avisé. Et membre de deux académies.
C'est-à-dire de l'Académie Sciences Morales
et Sciences Morales
et l'Académie Française. Mais je dirais que c'est au sein de l'Académie Française que sa réflexion s'est développée.
Maurice Druon avait peut-être déjà un petit
non.
peu battu
à la, vérité,
la campagne pour ça,
non? Non, Maurice Druon s'était beaucoup posé le problème. Sa réponse, c'était en général « Allons-nous-en pour ne pas être avec tous ces gens-là ». Combien de fois il disait « Si c'est ça, on part ». À quoi les académiciens lui disaient « Écoutez, la coupole, elle est faite pour nous, on ne va pas s'en aller comme ça. Où allons-nous? Sous les ponts ?»
Oui, et donc c'est Pierre Messmer qui a repris.
Et Pierre Messmer a compris qu'il fallait un texte. Tout le monde a travaillé, toutes les académies ont travaillé à ce texte, on l'a préparé. Et ça aboutit alors maintenant à la clarification qui aurait dû être faite en 1816. C'est-à-dire, bon, l'Institut existe. Il existe, on ne va pas le supprimer après deux siècles, ça serait stupide. Mais il est une entité indépendante de tout le reste. Alors, le palais de l'Institut, c'est à lui qui a été confié, puisqu'il n'y avait que l'Institut. Ce palais a été confié à l'Institut pour héberger les académies dès qu'elles ont été ressuscitées. Donc, si vous voulez, il est d'une certaine façon celui qui est l'organisateur des services, le service commun. Commun, mais d'entité totalement indépendante de lui. C'est-à-dire, chacun paye sa quote-part, ça n'est plus, et il n'y a aucun lien de dépendance, ni financier, ni, a fortiori, pas de pouvoir. Ce qui n'était pas clair avant. D'ailleurs, avant, la formule, c'était l'Institut et ses académies. Justement, ce ne sont pas les académies de l'Institut. C'est l'Institut, virgule, l'Académie française, virgule, l'Académie des sciences, virgule.
Six entités
différentes. Six entités indépendantes du pouvoir et indépendantes les unes des autres. Et ben, elles vivent ensemble parce que les locataires d'un immeuble vivent aussi ensemble. Et on a des vocations scientifiques, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble quand on en a besoin. Et je dirais que l'indépendance proclamée aide beaucoup
à la bonne intelligence des rapports.
Le progrès qu'on a fait, cette révolution de 2006, a été possible justement parce que dans les dernières années, je dirais à partir de 2003-2004, des gens des diverses académies ont travaillé beaucoup ensemble autour de ce problème. C'est ça, c'est leur sympathie, leur volonté d'en sortir qui a aidé.
Solidarité.
Extraordinaire. Le sentiment, ce sont tout de même des sociétés de savants, il n'y a pas de doute. Ce sont des parents, ils ont le même visage, ce ne sont pas des, je dirais, des marchands de légumes ou des... Ils rentrent dans la même catégorie de pensée, de métier, ce sont des gens tous semblables. Et les académies, au fond, c'est cinq sociétés semblables. L'Institut, c'est autre chose, c'est pas semblable, l'Institut n'a pas de membres. L'Institut est une machine. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on ne voit pas non plus.
Parce effectivement, que quand les... on ne perçoit pas ça.
On ne perçoit pas ça. Et alors, très curieusement, à l'Académie française, depuis toujours, quand quelqu'un est élu, il est Pierre Gaxotte de l'Académie française, Jacques Bainville de l'Académie française. Dans les autres académies, pour des raisons qui m'échappent, je l'ai dit, d'ailleurs les Chinois m'ont demandé des explications, j'ai dit, ils mettent membres de l'Institut. Or l'Institut n'a pas de membres. Ils ne sont pas élus à l'Institut, ils sont élus dans une académie. Il me semblerait beaucoup plus normal de mettre un tel de l'Académie des sciences, car ça indique, je dirais, ce qu'est son domaine.
C'est son vrai manteau.
Absolument. Ou un tel de l'Académie des Beaux-Arts. Non, toutes les autres académies, ce qui dénote, alors là aussi, quand je dis la singularité de l'Académie française, les académiciens français se sentent de l'Académie française. Est-ce que, ailleurs, ça ne paraît pas suffisant? J'en sais rien. Je n'ai pas de réponse, mais ça a toujours été pour moi un sujet de curiosité. En tout cas, maintenant, les choses sont claires. Et alors, je dirais qu'elles sont claires, surtout, l'Académie française se retrouve dans la situation où Richelieu l'a laissée. C'est-à-dire, il a dit, je ne vous donne pas d'argent.
Autonomie.
Pour que vous soyez indépendant. Et en fait, bon, pour remplir une fonction de service public, qui est le dictionnaire, l'Académie reçoit l'aide de l'État sous forme de quelques postes d'agrégés, mais elle vit de ses... Il y a un énorme travail, nous distribuons des prix, l'Académie doit vivre. Et elle vit de ses fondations. Elle a une indépendance matérielle totale. Et c'est très important.
Mais c'est ça la gageure, et c'est ça le secret, oui, la clé de la réussite.
Et ça n'est pas facile,
et
parce que...
de la longévité.
Oui, je pense que c'est ça le secret. Et ça n'est pas facile, parce que il serait plus simple de dire à l'État, prenez-nous en charge. Mais à ce moment-là, où est l'indépendance? Je vois dans une période de crise comme maintenant, tous les ministères se tournent vers l'État, disent qu'est-ce que vous nous donnez, etc. L'Académie fait face avec ses moyens et elle accomplit toutes les missions qu'elle a à accomplir.
Oui, ça c'est une véritable prouesse.
Et presque quatre siècles. Et vous savez que ça a commencé, comment est-ce que ça a commencé? Le premier prix a été créé par un membre des débuts de l'Académie, Guès de Balzac, qui a légué une partie de sa fortune à l'Académie. Et c'est amusant parce que c'est un homme qui avait été élu presque contre son gré. On lui a pas demandé s'il voulait être élu. Il était dans sa province. Et quand on l'a élu, il a dit, mais moi, j'ai aucune intention de venir à Paris. Alors, on a fait pression sur lui au moins pour qu'il accepte d'être élu. Un personnage très respectable. Et après, on a marqué d'ailleurs dans les statuts de l'Académie qu'il fallait résider à Paris parce qu'on voulait pas encore. Et puis qu'il fallait faire acte de candidature. C'est pour ça qu'on doit faire acte de candidature. Pour ne pas voir se renouveler une aventure qui s'est passée en 1636. Mais Guès de Balzac, après, tout en ne venant pas, l'Académie a été très content d'en être et il a légué une bonne part de sa fortune. Ça a été le premier legs avec lequel on a fait le premier prix. Et à partir de là, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIIe siècle, l'idée est venue à cette Académie, en effet, que, outre le dictionnaire dont l'avait chargé Richelieu, il fallait essayer d'avoir des fondations pour pouvoir, parce qu'il ne suffisait pas de se réunir dans des hôtels particuliers ou même au Louvre au début, l'Académie s'est sentie la vocation d'encourager les lettres. Et elle a cherché, beaucoup de ses membres lui ont légué de l'argent, et puis des donateurs sont venus. Mais l'origine de tout ce système de fondation qu'on trouve maintenant aussi à l'Institut de France, c'est un académicien français de 1636.
Eh bien, l'Académie française montre toujours le chemin de la tradition et de la modernité.
Absolument.
Ça fait partie de cette grande qualité de ces savants.
Alors, je vais vous dire, la tradition c'est un, tout de même l'Académie est fidèle à sa fonction qui est de, en publiant le dictionnaire, je ne sais pas si dans l'avenir, avec les nouvelles technologies, le dictionnaire, encore je crois que l'édition publiée restera parce que c'est très important. Mais en tout cas, le dictionnaire, c'est une de ses fonctions, tout simplement parce que Richelieu l'a créé aussi pour le royaume de France n'était pas unifié.
Pour stabiliser la langue française.
Pour stabiliser et pour unifier la France autour de la langue. C'était la grande ambition depuis l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier. Mais ça n'avait pas donné de grands résultats. C'était la langue de la justice. Alors que après, au XVIIe siècle, le français se développe et l'Académie y joue un rôle considérable. Donc ça, l'Académie est fidèle à cette mission. Elle est fidèle à sa mission d'encouragement, des lettres à travers ses prix. Elle a même une mission, je voudrais le dire tout de même, elle s'est donnée elle-même, avec ses diverses fondations, une mission de mécénat social extrêmement importante, que l'on ignore tout à fait. Nous avons un nombre considérable de donations et de prix, tout simplement ce que nous faisons évidemment dans la discrétion la plus absolue, pour aider des familles, pour aider les défavorisés. Alors l'Académie c'est, a aussi une mission que tout le monde ignore, qu'elle a choisi de se donner. Ça c'est par Richelieu, elle a une mission de mécénat social extrêmement importante. Elle donne chaque année un nombre très important de prix sociaux à des défavorisés, les familles, les personnes dans la détresse ou malades, tout ça est soigneusement classifié selon les donations qui nous ont été faites au fil des derniers siècles. Et ça donne à l'Académie, pour beaucoup de gens, l'Académie est dans le tréfonds du pays. L'Académie a tout simplement le visage du chèque que des gens dans le besoin reçoivent. Et ça, ça compte aussi beaucoup. Les académiciens y attachent une importance extraordinaire. Et d'autant plus ça, je voudrais le souligner, je crois qu'aucune académie ne se prête à ce jeu-là en dehors de nous, qu'au fond, comme ils ont à choisir, à décider, puisqu'ils reçoivent, nous sommes couverts de dossiers, beaucoup d'œuvres, beaucoup de municipalités, des paroisses s'adressent à nous. Une fois par an, nous faisons ça au moment des prix, mais ça n'est pas publié, évidemment. Et ce sont les académiciens qui examinent les dossiers. Et je dirais que pour ces gens qui sont perdus dans le monde des lettres, de la pensée, tout d'un coup, ils sont confrontés concrètement avec la misère la plus grande.
Sur le terrain.
Sur le terrain. Et au fond, ils ont assis à y faire face. Et je dirais que tous considèrent que c'est une leçon très importante qui les ramène sur terre.
Donc nous avons vraiment affaire à des honnêtes hommes.
Oui, nous avons affaire à... L'honnête homme, c'est une notion. D'ailleurs, vous savez, un des principes académiques, on dit qu'est-ce qu'il faut pour être élu. Maurice Drouin racontait toujours qu'il recevait des lettres de gens qui disaient quelle sorte de diplôme il faut pour se présenter à l'académie. Et il répondait, il ne faut aucun diplôme, ça c'est... rien n'est exigé. En revanche, à l'intérieur de l'académie, on dit toujours que la première chose qu'il faut avoir, c'est être de bonne compagnie. Parce que c'est un... Alors, ce que l'académie a par rapport à toutes les autres académies, c'est aussi sa singularité, que depuis 4 siècles, le nombre de ses membres n'a pas changé, 40. Et on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ce conservatisme? Ça n'est pas par conservatisme, c'est parce que c'est vraiment une société de réflexion, de travail en commun qui est le travail du dictionnaire, mais une société de réflexion pluridisciplinaire, puisque les académiciens viennent de tous les horizons, c'est pas une académie d'une discipline particulière. Donc ils s'enseignent mutuellement des choses et ils participent tous à un travail commun où chacun apporte ce qu'il sait lui-même, mais pour que ça reste une compagnie.
Il faut pas qu'il y ait d'un monde démultiplié.
Voilà. À 40, je dirais que c'est une continuité. Ça, c'est très important. Ça leur donne ce sentiment d'être fidèle au passé. Il n'y a pas un académicien aujourd'hui qui n'ait une généalogie qui commence en 1635. Si vous multipliez les fauteuils, vous n'avez pas ça. C'est déjà ça, si vous voulez, d'une certaine façon, on se sent responsable devant ceux qui vous ont précédé. Moi, je siège au 14e fauteuil. Le 14e fauteuil a été occupé par Corneille, par Victor Hugo, par les Comtes de Lille, la littérature, il y en a d'autres, par le maréchal Lyautey. C'est toute l'histoire de la France.
C'est très touchant pour vous, tout ça.
C'est très important. Je me sens une certaine responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui m'ont précédé. Je crois que cette continuité est très importante. Mais en même temps, ça n'est pas le conservatisme. Et il ne faut pas penser ça. L'Académie se préoccupe vraiment du monde contemporain. D'abord, elle s'occupe, je dirais, de comprendre ce qu'est la langue d'aujourd'hui. Parce que la langue d'aujourd'hui, c'est aussi celle qu'on parle, que parlent les gamins dans les banlieues et tout ça. Il est nécessaire qu'elle se situe quelque part. Donc, elle ne peut pas s'écarter un seul instant du monde moderne. Bon, elle est maintenant, je dirais, le haut lieu de travail sur la francophonie. Et porter la langue française dans le monde, c'est tout à fait autre chose. C'est une activité de relations internationales qui est extrêmement importante. Elle est, et ça, la participation de l'Académie au monde, la francophonie, en fait, un acteur de la vie internationale de cette partie du monde. Et puis, elle se passionne pour les techniques nouvelles, pour tout ce qui est moderne. Bon, il y a depuis des années, il y a un site, nous nous interrogeons précisément sur l'utilisation des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre le rapport entre la culture, une civilisation qui est beaucoup plus que la culture, et puis un monde qui, où, je dirais, la consommation l'emporte, probablement sur une culture de longue durée, tout ça. Elle a fixé sa ligne par rapport à ça. Donc, si vous voulez, rien du monde moderne ne lui échappe. Et d'ailleurs, dans ces élections, elle cherche à accueillir toujours des personnalités qui représentent des aspects tout à fait différents. C'est une académie ouverte sur le monde, elle a des membres étrangers, bon, qui sont francophones et français de nationalité, mais Henri Troya, Ionesco, Léopold Sédar Senghor, c'est l'Afrique, Assia Djebar, l'Afrique du Nord, François Cheng, la Chine. Vous voyez qu'il y a une grande ouverture qui se poursuit, il n'y a aucun doute là-dessus. Obaldia, qui est panaméen d'origine, enfin, la volonté d'être dans le monde. Et l'Académie entretient des relations, évidemment, avec les académies du reste du monde.
Merci beaucoup de nous avoir fait pénétrer dans ce monde merveilleux de l'Académie, parce qu'il est très sensible aussi, intellectuel et sensible. Merci, Madame le Secrétaire Perpétuel.
Merci de votre attention.